Thérèse par le père Philippe Saint-Jeudard le 23 janvier 1988.
Oui, la technique est fatiguée. Maintenant, ça va marcher. Bon. Voir avec vous le terme de la philosophie. Ce qui achève toute la recherche philosophique. Je crois que c'est toujours très important quand on est dans une recherche de voir le point de départ et le terme, l'alpha et l'oméga. Parce que, quelquefois la recherche étant difficile, vous commencez à comprendre que la philosophie, c'est pas toujours facile, surtout la philosophie première. L'éthique, ça doit aller à peu près, la philosophie de l'art à peu près aussi, mais il y a quand même pas mal de choses entre deux. Hein. Vous voyez, si je prends un petit peu le parcours, la carte Michelin de la philosophie, n'est-ce pas ? Faisons le point de départ. Ce qui... Le point de départ. L'opération humaine, volontaire, le facere. Je crois que c'est le point de départ de la philosophie. Donc l'alpha, on part de là. On découvre le point de vue du travail. Deuxièmement, on découvre le point de vue de l'activité, de l'amour d'amitié. Et puis, la coopération, l'opération humaine, volontaire. Donc, toujours se rappeler ce triangle de base, hein, qui est, comme Aristote dit, la philosophie humaine pratique. On part de l'homme transformant l'univers, l'homme capable de rencontrer son frère, l'autre, dans l'amour d'amitié. Et à partir de là, toute la philosophie morale, l'éthique, et la coopération, la philosophie de la communauté. Alors, qui doit aller jusqu'à une philosophie politique. C'est par la coopération qu'on peut entrer progressivement dans ce que représente la philosophie politique. Donc on a là la philosophie pratique. Puis on s'élève vers une philosophie dite spéculative, c'est-à-dire la recherche de la vérité pour elle-même. Dans cette première partie de la philosophie, ce n'est pas la recherche de la vérité pour elle-même. C'est l'activité humaine dans sa finalité. Et là, la recherche de la philosophie pour elle-même. On a donc premièrement la philosophie de la matière, qui est la philosophie de la nature matière, à partir de l'expérience de ce qui est mu. Et voyez pourquoi, parce que le travail se fait sur une matière. Et cette connaissance de la matière, il faut la connaître pour elle-même. C'est très curieux, voyez. C'est là où on voit que la philosophie du travail nous met tout de suite en face de la praxis de Marx, et nous dépassons déjà par le travail, mais nous le dépassons en faisant la philosophie de la matière pour elle-même, puis la philosophie du vivant et la philosophie première. Je vais vite, parce que vous commencez à connaître ça. Mais c'est toujours bien comprendre ça. Bien comprendre que de fait, la philosophie n'est pas du tout un cheminement univoque. Elle implique toujours une très grande diversité dans son cheminement. La philosophie première, donc, c'est la philosophie de ce qui est comme être, comme tel. Je pourrais dire comme tel, de ce qui est comme tel, de ce qui est comme être. Cette philosophie première nous fait découvrir l'ousia, ce que nous avons essayé de faire, l'être en acte, l'un et la personne. Parce que ça se termine dans la recherche philosophique, métaphysique de la personne. À partir de là, il y a la grande interrogation. La personne humaine est-elle la réalité suprême? Est-elle la réalité ultime? Cette grande interrogation nous conduit à la découverte de l'être premier, acte pur, que nous appelons, selon les traditions religieuses, Dieu. Et nous essayons, à partir de là, nous entrons là dans la théologie naturelle, ce qu'on appelle la théologie naturelle. Nous essayons, à partir de là, de comprendre ce qu'est cet être premier, autant que nous pouvons le connaître, dans la mesure où nous pouvons le connaître. Et nous nous posons la question, quel est le lien entre cet être premier et l'homme, la personne humaine? Quel est le lien de cet être premier avec les vivants, avec l'univers? C'est tout le problème de la création. Ce que les traditions religieuses appellent création. Le mot création est une expression qui relève des traditions religieuses. Quel est, si vous voulez, le premier facere? Quelle est la première activité ayant un effet extrinsèque à la personne qui en est l'origine? Quelle est la relation entre nous-mêmes et Dieu? Donc tout le problème de la création. Une fois qu'on a découvert le problème de la création, nous pouvons adorer Dieu. Vous voyez, c'est toute la dernière dimension de la personne humaine comme créature. Nous pouvons adorer et réfléchir sur ce que représente l'adoration et la contemplation. Et dans cette contemplation, comme fruit de cette contemplation, nous pouvons regarder l'homme dans un nouveau regard. Et c'est ce que nous appelons le jugement de sagesse. Donc voyez où ça se situe. C'est vraiment l'oméga, le dernier moment de ma vie de ma vie philosophique. Et c'est très important de comprendre tout ce cheminement. Il est long, hein, voyez, car vous avez du temps devant vous. C'est toute votre vie, ça. Parce que je crois que jusqu'à la fin de sa vie, on doit réfléchir au plan philosophique si on veut rester un théologien. Parce que si vous arrêtez de réfléchir, vous pouvez continuer d'être un croyant, mais vous ne pouvez plus être un théologien. Et vous voyez, c'est intéressant parce que chaque fois, on découvre, dans chaque partie de la philosophie, on découvre ce qu'est l'homme. Les trois premières dimensions de l'homme, les quatre dimensions de l'homme. Vous avez donc l'homme à sept dimensions, philosophiquement parlant. C'est quand même très curieux. Il a sept dimensions. Et je crois qu'on peut dire, alors si on est croyant, que ces sept dimensions, c'est les sept attentes de l'Esprit-Saint. Ça, il ne faut pas le dire au plan philosophique. On peut le dire en tant que croyant. Et c'est les sept grandes dimensions de l'homme. Facile à comprendre. Homo faber, l'homme transformant l'univers. L'homme ami, l'homme coopérant. C'est-à-dire l'homme politique. L'homme parti de l'univers. L'homme le premier vivant. La synthèse de tous les degrés de la vie. La complexité de l'homme comme vivant. L'homme en tant qu'il est une personne. Toute la métaphysique, c'est pour découvrir la personne humaine. Et l'homme religieux. Là, vous voyez tout de suite que les idéologies athées suppriment la dernière dimension. Il n'y en a plus qu'un homme à six dimensions. Vous savez le chiffre de la bête, hein ? C'est 6, 6, 6. C'est quand même curieux. Parce que vous avez supprimé la dernière dimension, l'homme religieux. Alors c'est l'homme qui réfléchit sur lui-même et qui se trouve autosuffisant. Parce qu'il réfléchit sur lui-même 6, 6. Et troisième, autosuffisant. Il a besoin de personne. Vous savez, quand le Saint-Père, dans son premier voyage à Paris, quand il a vu les évêques à huis clos, et qu'il leur a dit ce que eux devaient entendre personnellement, heureusement que ça a été édité après. Et dans ce discours, le Saint-Père fait cette remarque. L'Église vit une tentation qu'elle n'a encore jamais vécue. Et il ajoute, l'Église vit une méta-tentation. Ça, c'est bien le Saint-Père. Une méta-tentation. Et cette méta-tentation, c'est que l'homme rejette le Sauveur et veut se suffire à lui-même. L'autonomie absolue de l'homme. 6, 6, 6. Ah, il ne le dit pas, ça c'est, je l'ajoute, je glose. C'est très intéressant de voir que la grande tentation, c'est celle-là. Et je crois qu'en effet, que c'est vraiment cette grande tentation que l'Église subit en face de toutes ces idéologies athées. Et toutes ces idéologies athées exigent d'aller beaucoup plus loin, au point de vue philosophique. Parce que je ne peux pas répondre à ces idéologies athées uniquement au plan de la foi. uniquement au plan de la théologie. Il n'écouterait pas à vous parler de la foi, mais la foi, ça signifie rien pour eux. La foi, c'est un langage d'enfant. Il faut donc avoir un langage d'homme. Et le langage d'homme, c'est le langage philosophique. Donc, alors vous voyez bien ce que nous regardons maintenant. Nous regardons d'une manière ultime, dans la lumière du Dieu créateur, nous regardons ce qu'est l'homme comme créature, comme homme religieux. Alors c'est très important de souligner que c'est un jugement de sagesse. Tout cela, c'est une voie de recherche. On dira la via inventionis. C'est la voie de recherche qui aboutit en dernier lieu à la découverte de Dieu, qui aboutit au problème ou au mystère de la création, et dans la lumière de la création, je regarde l'homme. Oui. C'est le cosmonaute métaphysique, ça. Le cosmonaute qui monte dans la... C'est très intéressant de regarder de la Terre du haut de la Lune. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. J'aime mieux regarder l'homme et notre univers dans la lumière de Dieu. C'est mieux. Ça exige un peu moins de technique, mais ça exige beaucoup plus d'intelligence. Parce qu'il s'agit d'aller le plus loin possible où l'intelligence humaine peut aller. Ce qu'on ne fait jamais, hein. On ne fait jamais ça. Les cosmonautes métaphysiques, hein, on les compte sur les doigts. C'est-à-dire ceux qui... Et on devrait le faire, parce que c'est là seulement où on comprend tout l'intérêt de la philosophie. C'est là seulement où on récupère, vous voyez, je dis bien récupérer, tout ce que le néoplatonisme dit. C'est là seulement où on récupère tout ce que l'ontologisme peut dire, tout ce que l'existentialisme peut dire. Parce que le jugement d'existence, le jugement de sagesse, est un jugement d'existence. Je regarde l'homme existant, créé. S'il est créé, il est existant. Alors, nous allons regarder rapidement, une fois que vous avez compris, hein. Alors vous allez me dire, mais c'est très ennuyeux, tout ça je ne l'ai pas fait. Où est-ce qu'on en est? Vous voyez, qu'est-ce qu'on a touché un tout petit peu, hein. L'inventaire de ce qu'on avons touché. Bon, on a vu quelque chose du facere et du travail, ça vous dit quelque chose? On a vu quand même quelque chose de l'éthique. La politique, on la laisse un peu, on attend. On a vu quelque chose de la métaphysique. Il y a déjà quelque chose, vous voyez. On a 1, 2, 3 points d'atterrissage. Puis maintenant, nous regardons ce qu'il y a d'ultime. Ce qu'il y a de dernier. Enfin, c'est l'avantage de la philosophie, ça. C'est qu'on peut faire... si on faisait un cours de géométrie ou de mathématiques, on ne pourrait pas faire ça. Mais en philosophie, on peut. Parce qu'on a toujours la référence au réel. C'est l'homme. Vous avez toujours le point d'atterrissage. Votre laboratoire, c'est l'homme. Donc c'est vous. C'est pour ça que vous pouvez faire de la philosophie en cachot. Ça n'a pas d'importance du tout. Pas besoin de bouquins, il suffit de comprendre ce qu'on est. Et ça, c'est merveilleux. Enfin, qu'on a compris ça, on comprend qu'on porte en nous-mêmes, puisque c'est l'homme qu'on regarde tout le temps en philosophie, on porte en nous-mêmes ce qui nous intéresse. Alors, de temps en temps, c'est bon de regarder l'autre, donc d'être deux dans le cachot. Enfin, c'est bien, parce qu'alors on a l'exercice de l'amour d'amitié, et si on est trois, on a l'exercice politique. Il suffit d'être trois pour faire de la politique. Il faut être trois. Dès qu'on est trois, c'est tout de suite la communauté. La situation tragique d'être trois. Mais la situation bien heureuse d'être trois. C'est vrai. C'est une situation bien heureuse d'être trois. C'est la situation politique, oui. C'est une situation trinitaire, la politique. C'est très curieux. C'est pour ça que l'homme ne peut pas en dire grand-chose. Alors, philosophiquement, je ne peux pas dire plus, je ne peux pas dire situation trinitaire. On est trois. Puis après, l'homme regarde l'univers, la matière. Et je crois qu'on doit dire aujourd'hui philosophie de la matière. Philosophie du vivant, la personne, et de la personne, on remonte à l'être premier. Et dès qu'on découvre l'être premier, on essaie de comprendre la comparaison de l'être premier de nous-mêmes. La création, et dans la création, on essaie de préciser. Alors, on va essayer. Je vous rappelle ce que nous avons déjà fait. C'est pas comme cosmonaute de la métaphysique. Ce que nous avons déjà fait les années précédentes, parce que chaque année on en fait un petit bout. Parce que c'est important de creuser ça. Alors, dans la lumière, donc, du Créateur, la première chose qu'on voit, que la création, l'homme créé, donc la créature, est nécessairement dans une potentialité radicale. C'est-à-dire que le premier jugement qu'on porte, c'est de voir que dans toute créature, il y a une fêlure métaphysique, distinction radicale de l'essence, de la nature et de l'existence. C'est intéressant, vous voyez, de s'arrêter un instant à cela, parce que de fait, quand vous regardez dans les manuels thomistes, vous voyez que la première thèse thomiste, je dis bien, c'est dit thèse, j'aime pas du tout ce langage-là, on va voir pourquoi. On dit première thèse thomiste parce qu'on met le thomisme en boîte, c'est-à-dire dans un système bien bien réglé. On ne voit pas que la philosophie réaliste est une recherche constante avec des découvertes. Mais c'est une recherche constante. Alors qu'est-ce qu'on dit ? On dit, premièrement, dans tout être, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Dans tout bon manuel thomiste, on dit ça. Vous voyez que c'est dit dans une thèse. En réalité, ce n'est pas une thèse. C'est un jugement de sagesse. Ce n'est pas la même chose du tout. Parce qu'un jugement de sagesse, on n'a pas besoin de le prouver. Il suffit de regarder et de comprendre que seul l'être premier est absolument simple. Donc la première chose que vous voyez, dans la lumière de la simplicité de Dieu, vous voyez tout de suite que l'homme implique cette distinction radicale de l'essence et de l'existence. C'est Kierkegaard qui dit qu'il faut regarder les fêlures de l'être. Il y a une fêlure radicale en nous, distinction de l'essence et de l'existence. Vous ne la sentez pas, hein, heureusement. Cet homme parle de l'angoisse métaphysique. Il dit que, de fait, si nous regardons la créature, et donc la créature c'est nous, on voit qu'il y a d'une certaine manière un primat du non-être. D'où le vertige métaphysique. l'angoisse métaphysique, c'est le vertige métaphysique. Quand vous vous regardez dans la lumière du Créateur, donc dans la lumière de Dieu Créateur, vous voyez que vous êtes premièrement celui qui n'est pas. Vous êtes un être qui aurait pu très bien ne pas exister. Et rien n'aurait changé. C'est ça, c'est l'humilité radicale. Quand on se croit quelque chose, ça fait du bien. C'est la douche métaphysique, la douche écossaise métaphysique. N'est-ce pas ? C'est... Rien n'aurait changé dans l'univers. Ni en Dieu, forcément. Si vous n'aviez pas existé. Or, vous auriez pu très bien ne pas exister. Parce que en vous, il y a d'abord le non-être. Je comprends très bien que c'est le vertibilé, le vertige métaphysique. Alors, il ne faut pas trop le faire. Hein. Oui, c'est pas l'angoisse. Mais ça fait montrer ce qu'est l'angoisse métaphysique. C'est pas l'angoisse. Pourquoi ? Parce que vous vous regardez dans la lumière de Dieu. Donc, vous êtes dans les mains de Dieu. Vous êtes dans les mains du Créateur. Si vous êtes dans les mains du Créateur, vous n'avez pas d'angoisse. Mais vous voyez que vous n'êtes rien. Et que tout ce que vous êtes, du point de vue de votre existence, provient de Dieu. Comme un don. Votre existence est une existence qui est donnée gratuitement. Vous n'avez aucun droit à l'exister. Par rapport à Dieu, pas par rapport aux hommes. Par rapport aux hommes, vous avez un droit à vivre et à survivre. Mais c'est par rapport à la vie. C'est pas par rapport à l'être. Par rapport à l'être, vous êtes rien. Nous sommes rien. Et ça, c'est très radical et c'est très beau hein, de voir que toute la philosophie consiste à voir que pratiquement je ne suis rien par rapport à Dieu. C'est ça le point de vue essentiel d'un être religieux. C'est qu'il considère qu'il est totalement dépendant de l'être premier. Dans la lumière de la perfection de Dieu. Vous voyez, alors, je peux effacer ça, vous allez comprendre. Dans la lumière du Dieu créateur, premier attribut de Dieu, c'est la simplicité. Et vous voyez tout de suite que vous, vous n'êtes pas simple. Il y a en vous une dualité. Essence, nature, peu importe, c'est mieux essence. Et exister, essai. Et cet essai, c'est un don gratuit du Créateur. Le Créateur est absolument simple. Dans la contemplation du Créateur, simple dans son être, vous voyez que vous, vous êtes radicalement fêlé dans votre être. La fêlure métaphysique. C'est pas gênant parce qu'on l'est tous. Alors évidemment, normalement, ça se cache bien. De temps en temps, ça se manifeste. Mais ça ne fait pas une très grosse différence. Hein. C'est une question de manifestation. Mais au fond, on est radicalement fêlé. La fêlure métaphysique. C'est très grand, ça. Parce que ça vous met dans l'humilité, vous comprenez ? L'humilité métaphysique, c'est ça. C'est de reconnaître qu'en vous, il y a un primat du néant. Il y a une tendance vers le néant. Quand je dis tendance vers le néant, c'est pas juste. C'est pas une tendance. C'est une présence. Chose très très curieuse. Et quand on dit qu'on est créé ex nihilo, à partir de rien, on est parti à partir de rien, ça veut dire que la matière sur laquelle Dieu travaille, c'est le néant. Et cette matière, elle est présente dans l'œuvre. Alors évidemment, vous n'allez pas dire, il y a un petit trou, c'est le néant, et puis dessus, non, c'est pas ça du tout. Il y a un vertige métaphysique. Seconde attribut de Dieu, la perfection. Après avoir vu la simplicité, c'est la perfection. Je vois que l'homme, parce que c'est l'homme qui m'intéresse, hein, c'est l'homme que je regarde. Et à partir de l'homme, j'universalise toutes les créatures. L'homme est essentiellement imparfait. Tout ce qui est créé est essentiellement imparfait. Ou radicalement imparfait, c'est encore mieux. Il y a quelque chose qui est fait, qui est limité. Celui qui est à côté de moi, il est aussi limité. Il est extérieur à moi. Donc, je suis imparfait. Troisième contemplation de Dieu, la bonté. Voilà les trois premiers attributs de Dieu. Simplicité, perfection, bonté. Dans la lumière de la bonté de Dieu, je vois que je suis bon, comme il y a une certaine perfection à moi. Mais ma bonté n'est pas dans la simplicité. Pour progresser dans la bonté, je suis obligé d'accepter une certaine complexité. Ça, c'est aussi très intéressant à voir. Et Dieu seul est bon dans la simplicité. Vous voyez la simplicité de Dieu. La simplicité, vous pouvez traduire ça, la pureté, la limpidité. Un être simple est absolument limpide. Il a une pureté absolue. Ça, c'est le propre de l'être simple. Il est absolument limpide. Tandis que nous, le néant, c'est l'obscurité. C'est l'opacité. Nous ne sommes pas des êtres limpides. On a des nostalgies de limpidité. On a des nostalgies de pureté. Mais on n'a pas une pureté radicale. Et la perfection de Dieu, c'est une perfection qui implique la simplicité. La perfection, c'est l'intégrité. On est parfait quand il ne vous manque rien. C'est ça le problème de la perfection. Il ne vous manque rien. Il ne manque rien à Dieu. À tel point que vous ne pouvez pas ajouter quelque chose à Dieu. Tandis que nous sommes des êtres qui avons une certaine perfection. C'est bien évident, il y a une certaine perfection métaphysique, puisqu'on existe. Puisqu'on existe dans la nature humaine, il y a une certaine perfection. Mais radicalement, cette perfection est limitée. Radicalement, cette perfection est une attente de quelque chose qui vient en plus. Parce qu'on est radicalement imparfait. La bonté. Dieu est saint dans sa bonté. Tandis que nous sommes, j'allais dire, compliqués dans notre bonté. Nous impliquons différents aspects. On est bon radicalement parce qu'on existe, on est bon parce qu'on a des qualités, et on a des qualités multiples. On l'a vu, les qualités, c'est très multiple. Et puis, on est bon surtout quand on arrive à se dépasser. Vous voyez la différence entre la perfection et la bonté. Un être parfait ne lui manque rien. Un être bon, c'est celui qui est capable d'attirer les autres. C'est ça la bonté. On attire les autres. Et on atteint sa fin, c'est-à-dire on s'est dépassé. Quatrième perfection de Dieu, l'infini. Dieu est infini. Simplicité, perfection, bonté, infini. Dans sa simplicité, Dieu n'a pas de limite. Sans limite, sans frontières. Dieu, c'est le Dieu sans frontières. C'est du reste merveilleux. C'est le Dieu de tous. Il n'y a pas de frontières en Dieu. Parce qu'il est infini. Ça, c'est inouï. Hein. La contemplation de l'infini de Dieu, c'est merveilleux. Parce que nous, nous sommes au contraire un être limité. Nous l'avons vu, terriblement limité, terriblement fini. Nous avons des frontières, tout le temps. On se barricade. C'est pas les clôtures, hein, c'est pas ça. On se barricade. On a très peur des incursions de l'autre. Parce que nous sommes des êtres limités. Ça, c'est très très fort de voir comment Dieu étant infini, donc il est sans frontières, on ne lui ajoute rien. À nous, on peut toujours ajouter. Ça explique une tas de choses. On est des êtres qui quelquefois, on en ajoute tellement qu'on ne sait plus où on en est. Quand on dit qu'on a un estomac plus grand que ses yeux, voyez-vous, on a un estomac plus petit que ses yeux, et qu'on n'arrive pas à prendre exactement ce qu'on a. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est qu'on en veut en ajouter, en ajouter, en ajouter. Ensuite, présence d'immensité. Dieu n'a pas de lieu, il est partout. Dieu est présent partout, la présence de Dieu partout. Vous voyez, c'est toujours dans la contemplation de l'être premier que je me regarde. Et cette contemplation, c'est une contemplation naturelle, philosophique, hein, c'est pas une contemplation mystique. Nous pouvons tous acquérir cette contemplation. Et au fond, très vite, au plan philosophique, parce qu'on a assez vite la dimension du Dieu créateur, simple, parfait, bon, infini, présence d'immensité, il est partout, il n'a pas de lieu. Tandis que nous, nous sommes un être localisé. Nous sommes dans tel lieu. On est né dans tel lieu. En Asie, au Corée, au Liban, en France. On est limité, c'est terrible ça, c'est terrible d'être localisé. C'est effrayant. Dieu, pas de lieu, présent partout. Donc la présence d'immensité, Dieu est immuable. Dieu ne change pas. Dieu ne peut pas changer. Alors que nous sommes, nous, des êtres essentiellement changeants. Nous avons une capacité de changement. Dans notre être même, nous sommes des êtres changeants. Il y a bien quelque chose en nous de stable. Au plan philosophique, Il y a bien quelque chose en nous de stable, c'est notre nature humaine. Ça, c'est stable. Mais par rapport à tout le développement de notre être, c'est quelque chose d'extrêmement limité. Ensuite, vous avez l'éternité. Dieu est éternel. Nous sommes dans le temps. Vous voyez toutes ces dimensions. La temporalité, dont on parle beaucoup aujourd'hui. La temporalité, ça affecte profondément notre être. Dieu est éternel. Donc, parce qu'il est immuable, il est éternel. Parce qu'il est infiniment bon, il est immuable. Il n'a pas besoin de chercher son bien en dehors de lui. Il n'y a que Dieu qui a une autonomie parfaite. L'autonomie parfaite de Dieu se traduit par l'immutabilité. Il a une perfection absolue, donc il n'a pas besoin, il ne change pas. L'éternité. Et après, c'est comme cela que saint Thomas nous donne les attributs de Dieu. Et ce que saint Thomas nous dit là, c'est vrai au plan purement métaphysique. C'est dans la somme théologique, vous n'avez qu'à regarder. La prima pars, question 3, 4, 5, 6, parce qu'il y a deux questions sur la bonté, peu importe, l'infini, la présence d'immensité, l'immutabilité, l'éternité et un. Dieu est essentiellement un. L'unicité en Dieu. Il ne peut pas y avoir plusieurs dieux. C'est impossible qu'il y ait plusieurs dieux. Absolument impossible. Alors que de fait, lorsqu'il s'agit de l'homme, on est tout de suite dans la multiplicité. Il ne pourrait pas y avoir un seul homme. C'est curieux du reste, hein, métaphysiquement. C'est pour ça que c'est tout de suite le couple. Métaphysiquement, l'homme ne peut pas être un. C'est très curieux ça du reste. Et donc, c'est normal qu'on sente en soi une solitude. Une solitude qui n'est pas une plénitude, qui est une solitude en le sens qu'il y a un manque. On n'a pas la plénitude. Alors vous voyez que déjà ce regard sur l'homme, ça fait un regard extrêmement... C'est pas négatif, hein. Je me regarde dans la lumière de la bonté de Dieu. Je me regarde dans la lumière de l'infini de Dieu. Et je vois que, nécessairement, je suis limité, localisé, que je suis un être changeant, capable de changement. Il y a quelque chose en moi qui est bien stable, il y a toujours les deux aspects, hein, puisque la dualité essence et existence se retrouve tout le temps. Forcée, elle est première, elle est fondamentale. Donc la fêlure métaphysique, elle se répète selon des modalités différentes. Parce que être dans le temps, au point de vue métaphysique, c'est quand même terrible. Il y a quelque chose en moi qui réagit contre cela, être localisé. Ensuite, vous voyez que ce regard de sagesse, qui est un regard contemplatif, nous donne une très grande richesse sur ce que c'est que l'homme, et en même temps nous montre sa faiblesse, sa fragilité. Vous avez ensuite tout le point de vue de la vie. Dieu est le vivant, au point de vue de son intelligence et de sa volonté. Alors c'est dans la lumière de l'intelligence de Dieu que vous pouvez regarder l'intelligence de l'homme. L'homme est un être intelligent, mais dans son intelligence, il y a la dualité. Parce que l'intelligence de Dieu est simple, c'est la contemplation. C'est la contemplation de lui-même. Dieu se contemple. Et l'intelligence de l'homme est une intelligence qui implique toujours la dualité. Donc une intelligence complexe. Parce que s'il y a la dualité, en réalité, il y a les trois. Appréhension, jugement, raisonnement. Et la contemplation ne vient qu'au terme. Et je cherche progressivement à devenir un contemplatif. Mais je suis toujours un peu poussif. J'ai toujours beaucoup de peine. Parce que la contemplation, c'est l'achèvement, c'est quelque chose de très parfait. Alors, l'intelligence de Dieu est la volonté. Entre deux, je mets la vérité. Dieu est la vérité. Et la volonté, Dieu est amour. Alors, vous pouvez facilement comprendre que l'homme n'est pas la vérité. Son intelligence est complexe et lui-même, la vérité est au-delà de lui. Vous ne pouvez pas dire « je suis la vérité ». Regardez-moi bien, je suis la vérité. Il n'y a que le Christ qui peut le dire, parce qu'il est Dieu. Et la volonté en Dieu ne fait qu'un avec son intelligence. Comme l'amour ne fait qu'un avec la vérité. Tandis qu'en moi, dans ma personne humaine, la volonté est distincte de mon intelligence. Il y a une dualité fondamentale. Qui provient du fait que mon esprit n'est pas simple. Et parce que mon esprit n'est pas simple, qui a en lui une complexité, mon esprit ne peut pas être directement identique à ma capacité d'aimer. En moi, il y aura toujours une dualité entre vérité et amour. Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus pénible, ça. Parce qu'on voudrait bien que vérité et amour ne fassent qu'un. Vous voyez, autrement dit, l'amour ne sera jamais absolument limpide. Parce que l'amour demande un dépassement. Un dépassement à l'égard de quelque chose qui me transcende, qui est plus que moi. Vous voyez comment, dans la lumière de l'être premier de Dieu, je peux découvrir tout un aspect de ma personne humaine que je ne peux vraiment découvrir que dans cette lumière. Alors nous essaierons demain, continuer ce que nous avions déjà commencé, à essayer de comprendre tout le problème de la liberté de l'homme. Dans cette complexité si grande, est-ce qu'il y a encore possibilité de concevoir une zone de liberté ? C'est-à-dire comprendre comment à la fois je suis sous le gouvernement de Dieu, sous sa providence, et qu'en même temps je me gouverne moi-même. Et ce problème extrêmement important sur lequel, de fait, il y a eu constamment des positions diverses. On pense la position d'un Calvin, d'un Luther, la position de ceux de Louvain de l'époque, en opposition vis-à-vis de le Luther, la position d'un Saint Ignace, qui n'est pas tout à fait la même que celle de Saint Thomas, très curieux. C'est là où on peut dire qu'il y a quelque chose de très différent. Parce que saint Ignace aimait beaucoup saint Thomas. Et saint Ignace, apôtre, a senti le terrible danger de Luther. Et il dit qu'il faut toujours insister en premier lieu sur la liberté de l'homme. Alors que saint Thomas dit, il faut en premier lieu insister sur la dépendance à l'égard de Dieu. C'est très curieux et c'est très intéressant. Il faudra essayer de comprendre le fondement de ces deux positions. Ce sont deux saints. Je dis, faites vos choix, n'est-ce pas ? Ce sont deux saints. Alors, on choisit saint Thomas, on choisit saint Ignace. Les deux ont quelque chose de merveilleux. Au ciel, ils s'aiment beaucoup. Mais sur la terre, ça a engendré des terribles luttes. Ça, on le sait, il y a eu pendant 200 ans une lutte terrible entre théologiens dominicains et théologiens juifs, et c'était là-dessus. Avec le problème en plus de la grâce. Alors nous regardons au plan philosophique. Et je crois que ça, c'est absolument nécessaire. Si on ne le regarde pas d'abord au point de vue philosophique, on ne comprend pas. Alors on va essayer de comprendre ça. Oui, c'est un problème très intéressant, évidemment, difficile, subtil. Essayer de comprendre dans la lumière de la liberté de Dieu, comprendre la liberté de l'homme. Thank you.